Chapitre 6. Le lundi matin, Hanna, Yona et Johanna, debout sur le seuil, attendaient le taxi. Johanna portait une robe noire à pois blancs, celle-là même qu'elle mettait deux fois par an, à Noël et à Pâques, pour la visite à l'église. Hanna, Yona avait revêtu une robe grise de bonne sœur, boutonnée jusqu'au menton. Elle n'aimait pas les robes grises, mais pensait qu'avec cette tenue d'enterrement, on la considérerait avec respect dans la fameuse institution, alors qu'elle s'enquérerait de son beau-frère Yosi. Un vent léger soufflait. La robe de Johanna faisait des vagues au-dessus du genou. Celle de Hanna restait rigide. Elles attendaient, debout l'une à côté de l'autre. Hanna Yona déclara qu'elle sentait dans ses jambes le mouvement de la terre. Elle en était sûre, elle savait exactement quand c'était elle qui tremblait et quand c'était la terre. Mais Johanna n'écoutait pas. Elle scrutait la rue des yeux pour s'assurer que personne ne prenait une photo de l'infirme à l'agonie, en voie de résurrection, bien campée sur ses jambes, avant d'aller la dénoncer. Le taxi arriva. Elle dit « Goutte et gotte !» pressa Hanna Yona de s'installer sur la banquette arrière et monta après elle. Elle jeta un dernier coup d'œil à la maison et vit les manches rouges qui étaient revenues sur la façade. Satisfaite de renfort écarlate, elle montra la fenêtre de Simone. « Regardez, Madame Hanna. Très bien que fait Simone !»« Simone ?» s'étonna Hanna Yona, qui savait que sa fille n'avait pas même une chaussette rouge dans ses tiroirs. La doctoresse niait l'existence du mauvais œil et de tout ce qui était privé de molécules et dont on ne pouvait prouver la présence en laboratoire. Tant qu'elle n'aurait pas attaché un cil au mauvais œil et ne l'aurait observé au microscope, elle n'y croirait pas. Mais de notre côté, que savait-elle de Simone? Les gens changeaient parfois. Peut-être avait-elle quelque chose sur le cœur, une crainte quelconque. C'était sans doute sa façon de se moquer du mauvais œil. Hanna Yona fixa les yeux sur la route. « Maintenant, on va à Tel Aviv. » Elle aurait assez de temps en chemin pour penser à Simone, aux deux autres et à la petite qui ne s'était toujours pas remise des cheveux de sa grand-mère qui avait noirci en une nuit. Elle se donnait tout entière au balancement du taxi qui sautait sur les bosses de la route et sur les couvercles des bouches d'égout. Plongée au fond du siège, blottie contre Johanna, elle prenait plaisir au contact de ses genoux chauds contre les siens. Le chauffeur les regardait dans son rétroviseur. « Comment va, les filles ?»« On ne peut mieux !» répondit Hanna Yona en riant, persuadée que tout était vraiment pour le mieux. Elle et Johanna, comme des gamines, s'en vont toutes seules, en secret, à la grande ville. Elle contempla le ciel pâleau par le pare-brise et constata que l'été se fatiguait et que l'automne approchait. Elle vit le bleu décoloré et félicita les nuages effrontés qui faisaient des accrocs au firmament. Elle voyait les feuilles jaunies et arrachées par le vent. Elle jouissait de tout ce qui bougeait, y compris du mouvement de ses propres narines à chaque respiration. Tant que les choses étaient en mouvement, il y avait de la vie. Dans la mort, aucune molécule ne bougeait. Elle en était sûre, bien qu'elle ne sût pas exactement ce que c'était qu'une molécule. Mais à leur arrivée à la station centrale des autobus, la satisfaction s'envola. Elle marchait vers les guichets et les quais. Dans le flot des voyageurs, Hanna Yona aperçut sa silhouette dans une vitrine. L'image déformée et brisée l'emplit de rage contre sa robe. Elle s'adressa à Johanna. « Pas bien, quoi j'ai mis aujourd'hui ?» Puis elle l'entraîna dans un magasin de vêtements pour femmes au rez-de-chaussée. Johanna regimba. « Quoi grave maintenant la robe, Madame Hanna ? Le temps d'une robe neuve prend sur le temps de Tel Aviv. » « C'est grave !» expliqua Hanna. Et elle essaya une large jupe d'été ornée d'orchidées d'un jaune criant. Elle y joignit un maillot de tricot de la même couleur, se regarda dans la glace tout en tournant sur elle-même et annonça. « On dira ce qu'on voudra, mais ce jaune me va à merveille. » Elle présenta son dos à la vendeuse en lui prescrivant de couper les étiquettes. Puis elle mit la vieille robe en boule et demanda « Où est la poubelle, ici ?»« La poubelle? Vous voulez la jeter ?» Dans le coin du magasin, une jeune vendeuse cessa un moment de mastiquer et éclata de rire. « Elle est marrante, celle-là » Hanayona serrait la boule des deux mains et déclara que, même en guise de sueur, elle n'en voulait plus. Elle jeta son fardeau dans une corbeille. La petite vendeuse riait toujours et Johanna hochait la tête. En Roumanie, les gens auraient fait la queue pour une robe comme celle-là, soit pour la porter, soit pour en faire une chemisette, une jupe, des mouchoirs, quelque chose. En sortant du magasin, Hanayona contempla ses cheveux noirs et son accoutrement jaune dans les mêmes vitrines qu'il avait déformées auparavant. Elle posa une main sur sa poitrine. « Parole, je suis comme un joli tournesol qu'on n'aurait pas cueilli à temps. »« De quoi vous avez dit, Madame Hanna ?»« Que je suis une jolie femme qui a fait son temps. » Elles se frayèrent un chemin entre les voyageurs pressés et arrivèrent au quai de départ pour Tel Aviv. Johanna se mit en devoir de la désaltérer. « La peau, c'est comme du citron, Madame Hanna. Il faut boire de l'eau. » Hanna se laissa faire docilement et but. Elle était fière d'elle-même et de ses nouveaux vêtements. « Bravo! Il faut avoir une tête bien ouverte comme la mienne pour porter des fleurs de cette taille sur un corps de 77 ans. » « Tu crois que les vieilles riches de Miami Beach se promènent avec des jupes pareilles et qu'elles mettent leurs robes à la poubelle ?» Deux soldates, assises sur les barres de métal en début de queue, l'observaient et ricanaient. Elle s'en aperçut et leur tira la langue. Elle était décidée à regarder ces deux buses bien en face, deux vieilles gourdes de 18 ans avec une tête bouchée à l'aimerie. Elle rigolait au lieu d'apprendre à se fiche des conventions et à marcher d'après leur cœur. Ces deux-là feraient le tour de la vie avant de comprendre que la vie avait le dos solide et que les conventions étaient bonnes à jeter. L'autobus quitta la ville et passa à côté du cimetière de la colline des repos. Hanayona détourna son regard pour ne pas se souvenir de ce qu'on ne pouvait oublier. Après le grand virage, elle posa à nouveau les yeux sur la route. L'éventail de l'horizon s'ouvrit devant elle et elle reconnut des paysages qu'elle avait oubliés depuis longtemps. Les arbres allaient en sens contraire et montaient sur Jérusalem. Elle posa le front contre la glace et sentit que les dernières convulsions de sa poitrine s'estompaient. Son cœur se gonflait et ses côtes s'entr'ouvraient comme les lames d'un store. Si elle n'avait pas craint de réveiller les passagers qui s'étaient endormis, elle entamerait l'hymne « Maître du monde et Dieu roi ». Il avait bien droit à ce qu'on le loue de temps en temps. Ce qui était dû était dû. Pour autant qu'elle pût en juger, elle n'avait pas de connaissances dans l'autobus et il n'y avait pas de dénonciateurs éventuels. Elle pouvait donc abandonner le masque de la démence et redevenir elle-même. Mais dans ce dernier effort, elle ne trouva plus personne. Elle s'enfonça dans son siège et regarda les pans jaunes de sa jupe. Elle sentit que le store s'était refermé. Tout ce qui s'était épanoui quelques minutes plus tôt se refermait maintenant, comme un accordéon vidé de l'air de ses poumons. Une vieille de 77 ans, dont le quotidien avait dévoré la meilleure partie de la vie. Maintenant qu'il ne restait plus rien à faire, qu'elle se sentait vide et dépourvue, elle s'adonnait à l'ineptie et à la folie qui venaient remplacer le désœuvrement. Elle se levait le matin comme un clown au cirque. Prise de panique, elle saisit la main de Johanna qui se retourna vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Madame Hanna? Ça ne va pas? Voulez de l'eau? Il y a aussi chocolat pour le glucose, qu'il n'y ait pas hypo. » Elle farfouilla dans le sac qu'elle avait pris avec elle et lui donna des carreaux de chocolat à manger. Hanayona tendait la bouche vers la main qui la nourrissait et en demandait encore. Le mélange doux et amer du cacao fondait dans sa bouche et descendait dans ses entrailles. Après avoir dévoré le quart de la tablette, elle se souvint qu'elles étaient en marche pour sauver le petit Yosion et que c'était le seul but du voyage. Elle dit à Johann « En attendant, tout marche à merveille. » Mais en arrivant dans la banlieue de Tel Aviv, la merveille perdit de son attrait. Les bouchons de la grande ville entravaient la marche de l'autobus et retardaient la rencontre avec Yossi mort ou vif. Hanna Yona souffla dans son corsage ouvert pour se rafraîchir la poitrine. « Johanna, regarde quelle toupée a le soleil de Tel Aviv. Debout sur le toit de l'autobus, il est en train de nous cuisiner. On se croirait en plein mois d'août et sous l'heure d'été. » Sur le toit de l'hôpital, le même soleil semblait bien plus modeste. Un faible rayon entrait par la fenêtre du département et caressait les têtes chenues des patients, indolents entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Simona regarda sa montre et la grande pendule sur le mur. Elle aussi attendait midi. Quand elle aurait quelques minutes à elle, elle ferait le premier pas et descendrait, à condition que toutes les bonnes raisons ne lui tombent dessus et l'en empêchent. Elle appliqua le stéthoscope au dos en sueur de Fortune et écouta. Il n'y avait pas d'arrivée d'air au poumon droit, mais de toute façon, l'injonction « respirer profondément » n'avait plus elle-même de point de chute. La fille de Fortune se mordit la lèvre et fixa les yeux sur le disque argenté. Elle suivait la formation des cercles sur la peau et attendait le verdict. Simona pensa « Nous sommes à peu près du même âge et elle est encore tellement attachée à sa mère. Elle vient tous les jours lui éponger le front, lui humecter les lèvres et veiller à ce que la poitrine monte et descende. Et Fortune ignore même que sa vie tient à un fil sous les yeux de sa fille. « Mama, Iris a reçu un 20 en calcul. » « Maman, Amnon a passé son permis. Maman, Adi prend déjà de la viande hachée. » Elle inonde les oreilles de sa mère de bonnes nouvelles dans l'espoir qu'elles la réveilleront de son coma et, dans le cas contraire, qu'elles l'accompagneront en route pour le monde futur. Elle a bonne mine, elle se farde, ses cheveux noirs sont bien peignés et lissés et lui descendent sur les épaules. Elle ne voulait pas sortir avant l'examen. Sa mère avait plus de droits qu'elle. Quand elle avait demandé « Il y a un changement, docteur Yona ?» Simona ne l'avait pas trompée et avait répondu par la négative. Elle lui avait demandé « Ce n'est pas trop difficile de venir ici tous les jours comme ça ?» La jeune femme, confuse d'attirer vers elle l'attention due à sa mère, avait répondu « Non, ce n'est pas difficile. » Le difficile, c'était de nous élever et ce qu'elle endure maintenant. Simona remarqua que le regard rempli de remerciements devenait plus grave et plus dur. Sans doute avait-elle quelque rancœur contre le manque d'équilibre et l'injustice qui caractérisait l'existence, où le bien était mal récompensé. Elle a dû être une bonne mère, cela se voit, prononça Simona en remontant la chemise sur le dos nu de Fortune. Elle n'a pas dû, elle l'est encore. La fille protestait et se redressait, des larmes dans ses yeux fardés. Son visage indiquait qu'elle refusait le compliment décerné sans y croire. Que savait donc cette doctoresse de Fortune et de ses qualités de mère? Docteur Yon voyait le cœur de sa mère sur l'écran de l'échogramme, mais l'écran ne montrait que du sang et de la chair et non pas le cœur qui est dans le cœur. « Vous avez raison !» affirma Simona. Elle s'enfonça les pouces dans la chair de ses cuisses pour les empêcher de sauter. Elle prit le dossier de Fortune et sortit l'âme en peine. « Tu peux apprendre la médecine pendant 20 ans, te distinguer dans tous les domaines et rester aussi gourde qu'au début. » Penchée sur les dossiers, elle pensait. « Moi, je ne serais pas restée comme ça au chevet de maman. » Ce n'est pas que Hanna Yona ne soit pas une bonne mère. Elle est bonne à sa façon. Et puis, qui peut donner des certificats de bonne conduite aux mères? Quelle que soit la note accordée, Simona et ses sœurs resteraient redevables à leur mère. Celle qui les avait torchées petites n'aurait pas droit à la même bienveillance dans sa vieillesse. Orna et Yardena non plus n'auraient pas passé leur temps auprès de Hanna Yona comme la fille de fortune au chevet de sa mère. Elles auraient acheté le dévouement avec de l'argent et envoyé quelques Johanna à leur place. De toutes les occupantes de l'asile aux filles, seule la petite Dana resterait près du lit de sa mère et veillerait à tous ses besoins comme la fille de fortune. Cela n'avait rien à voir avec la note de Yardena à l'examen des sentiments maternels. Ce trait était gravé dans la structure du foie de l'enfant, dans sa marche simple et balancée, dans sa manière de mâcher le pain et dans sa façon de donner des feuilles aux lièvres. En grandissant, elle appartiendrait à la catégorie des gens qui font ce qu'il faut faire. Si elle avait été sa mère, elle ne l'aurait pas abandonnée comme une terre en friche, elle lui achèterait des livres, lui apprendrait à nager et jouerait avec elle à pays, villes, animaux. Toujours penchée sur le chariot, elle inscrivit quelques mots sur le dossier de fortune. La porte de l'ascenseur s'ouvrit et laissa le passage aux tables roulantes du déjeuner. Les malades furent appelés et Simona pensa. « À propos de maternité, c'est le moment ou jamais !» Elle laissa tout de côté et descendit les trois étages qui la séparaient du département de la fécondité féminine. « C'est toujours ça, ce n'est jamais qu'une ligne sur un répertoire, on peut toujours annuler. » Et comme elle y était, elle descendit encore trois étages jusqu'à l'hématologie. Elle se dirigea vers le paravent, l'écarta, entra et referma derrière elle. « J'ai pris ma décision, Michael. Je marche. » Il était assis sur son fauteuil, un ouvrage intitulé « La mort intermittente » posé à l'envers sur les genoux. Le sachet infiltrait des produits chimiques dans ses veines. En la voyant, il sourit. Son visage s'empourpra. Elle savait que c'était l'effet des stéroïdes et non celui de la générosité de son cœur. « Qu'est-ce qui urge ? Peut-être tu rencontreras quelqu'un, tu te marieras ? Pourquoi des spermatos congelés ? » Elle s'assit au bord du lit vacant et pensa. « Ça urge, à moins qu'il ne se désiste. » Ce n'était pas à elle qu'il fallait raconter que, dans ce centre, il n'y avait pas de limite. Une infirmière ou une interne pouvait tomber amoureuse de lui et inversement. Dans ces couloirs sordides, l'amour faisait la cour à la mort et il naissait des passions d'une durée indéterminée qui lançaient leurs étincelles au ciel. Simona connaissait l'attraction qu'exerçait la déesse de la gloire éternelle sur ceux qui allaient mourir, en particulier les jeunes lucides, conscients de leur mort prochaine. Elle avait souvent vu la pose altière de ceux qui savent la partie perdue, leur maigreur après que la maladie eut usé leur mâchoire, et la pâleur de ceux qui rayonnent de la lueur de l'infini. Elle se souvint d'un malade de la leucémie au département d'oncologie, un jeune et beau garçon pour lequel on avait pu trouver de donateurs correspondants. Une jeune stagiaire s'était éprise de lui à la folie. Tous deux savaient que c'était une question de semaines et ils menèrent une lutte impitoyable contre la mort. Quand on dressa le dé pour le mariage dans la cour de l'hôpital, il avait du mal à se tenir debout et son père et la mariée le soutenaient. Beau et malade, jusque dans la dernière de ses cellules, il déclara qu'il la prenait pour femme. Le lendemain, elle plia la blouse et déposa le stéthoscope et ils partirent au loin chercher un remède au mal. La mort manquait apparemment de vigueur et d'assiduité, car elle ne poursuivit pas son client au bout du monde. Hospitalisée dans l'un des plus fameux départements spécialisés du monde, le destin l'aida, Dieu eut pitié de lui, et un donateur le sortit d'affaire et il guérit. Avec son rétablissement, l'amour perdit de son ardeur, de sa force et de son auréole. Il cessa d'être à un doigt de la mort et au bord de l'abîme infini, et finalement, cet amour tomba en cendres et rendit l'âme. Moins d'un an après leur mariage, ils rentraient en Israël et divorçaient. Simona regarda le visage brûlant de Michael. Avec sa pâleur jaunâtre, il ressemblait à un martyr dont on aurait meurtri le visage à la cire. La main où coulait l'infusion était tendue devant lui et ouverte. Les doigts écartés montraient le flux du poison qui les irriguait, les imbibait, les pourchassait et les atteignait. L'autre main reposait paisiblement derrière la nuque. Il ressemblait à un coureur qui s'était arrêté un moment pour souffler et se reposer. Si la mèche de leur amour ne gisait éteinte à leurs pieds, elle serait retombée amoureuse de lui. Elle répondit au regard fixe qui se posait sur elle. Elle laissa sa main frôler ses doigts écartés et leurs doigts se joignirent. Elle ressentit un contact moite et froid. Il était en sueur, malgré l'air frais qui descendait du conditionnement. « Qu'est-ce qui urge tellement? Ne cours pas si vite! Un frigo qui tient le moins 195 fait du babysitting à mes enfants. Il ne leur arrivera rien pendant au moins 10 ou 20 ans. » Elle remarqua. « Dans 20 ans, j'en aurai 53. » Comme il parlait, le paravent s'ouvrit et une jeune femme en blouse blanche et au regard ardent apparut. Simone a senti les doigts raidir sous les siens. La nouvelle venue avait des cheveux noirs coupés courts, un visage clair et un cou long et fin. « Vous avez de la force pour moi, Michael ?»« Pour vous, docteur, toujours !» Il serra le poing et gonfla le biceps pour prouver le fait. Mais elle garda son sérieux et déclara « Je viens pour une enquête génétique, si vous êtes d'accord. » Elle agitait des papiers devant ses yeux. « C'est un plaisir, docteur. Mon ADN est tout au service de la science. » Il retira la main de sur sa nuque et se redressa. Puis il ferma les yeux un moment et les rouvrit. Il baissa le regard sur les sandales noires de la jeune doctoresse, puis le releva en souriant. Simone a compris qu'ils se connaissaient et entretenaient des liens d'amitié et s'apprêta à partir. Elle pensa « Cette fille-là va le faire prisonnier. » Elle se sentit faiblir et tenta de se ressaisir. « Ça va pas, non ? Le type est fichu, tout gonflé de stéroïdes et rongé au vert. Il a bien le droit de s'amuser au jeu de la vie et d'y prendre ce qu'il peut encore. » Malgré elle, elle mesura la taille fine de la jeune femme et la longueur de ses jambes. « Si c'est elle qui joue la finale, il va avoir du mal à s'en aller. » Elle se dirigea vers le rideau et demanda « Michael, tu ne reviens pas sur ta décision ?» Il se massa le genou pour faire passer la douleur et la regarda d'un air plus sérieux qu'il ne l'avait jamais fait. L'absence de sourcils et de cils donnait à ce regard un aspect frappant de nudité exagérée. « Non, Simone, c'est à toi. Rien qu'à moi ?» Il ne répondit pas. Elle se sentit stupide et superflue. La jeune femme s'effaça pour la laisser passer. Simone quitta le compartiment sans un mot de séparation. Et s'il avait envie de donner sa semence en cadeau à cette généticienne ou à n'importe quelle autre? Et qui empêcherait la banque de fabriquer avec un nombre illimité d'embryons? Simone remonta à la cafétéria, se regarda dans la glace au-dessus du lavabo, remarqua l'état lamentable de ses cheveux et de son visage qui ignorait les onguents, à part une crème à bon marché, et pensa qu'il ne fallait pas abandonner le terrain à la nature sans lutter, même si la bataille était perdue d'avance. Après le travail, elle irait chez la coiffeuse. Elle se ferait couper court, mettre du gel et enfin donner une teinte humide, comme quand on sort du bain, et puis on lui ferait aussi des pointes qui sortent un peu partout. Elle se rendit à l'étagère des pâtisseries, se mit en contravention vis-à-vis des règles nutritives qu'elle s'était fixées et s'offrit un gâteau au fromage riche en crème fraîche. Assise à une table libre, elle dévora son crime avec passion. Elle n'avait le contrôle ni des décences ni des décès. Paradoxalement, elle trouvait même un certain réconfort dans ses limitations inextricables. Elle posa son gâteau déjà entamé, alla s'acheter un milkshake à la vanille et revint à son assiette. Elle buvait et mangeait comme si elle fêtait un événement. Elle observa les blouses blanches et les pyjamas qui faisaient foule dans la cafétéria, attendant leur tour. Le plateau à la main, les médecins et les malades, sans distinction, dépliaient l'emballage d'un sandwich, mordaient dans un gâteau, trempaient le doigt dans le potage et goûtaient en route pour la caisse. De quel côté de la barrière qu'on se trouve, qu'on soit en haut de la pyramide ou au bout du rouleau, on est toujours esclave de son estomac. Elle buvait son milkshake tout en regardant. Les uns patiemment, les autres rageusement, tous passaient devant la caissière comme les âmes devant Caron, et elle disait « Donne, passe !» en fixant le lot de tout un chacun. Simone aperçut le docteur Amjad, le nouvel interne qui avait appris la médecine en Roumanie et qui arrivait avec un potage fumant sur son plateau. Puis, elle remarqua le docteur Nissimov qui hésitait entre le riz et la pomme de terre. Avant que les deux hommes ne l'eussent vu et ne soient venus à sa table, elle eut le temps de regarder par la fenêtre et de voir la ligne des anciens bâtiments de l'hôpital. La plupart étaient destinés à la destruction. En attendant, on y emmagasinait les lits rouillés et les chaises roulantes cassées. Sur les toits plats s'entassaient des monceaux d'aiguilles de pain desséchées qui faisaient obstacle au vent et à la pluie. Des milliers de générations de floraisons et de flétrissures s'amoncelaient ainsi sur ces toitures délaissées. Si Nissimov ne manœuvrait pas entre les tables avec son plateau en quête d'une place, Simona n'aurait sans doute pas porté les yeux sur cette cour à l'abandon et sur ses preuves à conviction de la cruauté du temps. Elle louchait sur le monde extérieur et constata avec satisfaction que Nissimov, comme le docteur Amjad, avait trouvé où s'asseoir et qu'elle avait échappé à eux deux. Malgré elle, elle contemplait les aiguilles de pin desséchées dans lesquelles elle vit le symbole de l'existence. Une nouvelle grossesse était la réponse unique et incomplète à cette finalité absolue. Elle chassa une mèche de son front et se souvint du salon de coiffure où elle irait après le travail. Elle se réjouissait de se voir en cheveux courts avec des pointes saillantes. Elle se demandait comment Yarden réagirait. Elle finit son milkshake, se leva, débarrassa sa blouse de quelques miettes de gâteau et retourna au département. À son étonnement, tout ce détour et son absence se soldaient par 35 minutes à peine. Les malades se courbaient toujours sur leurs assiettes et les tables roulantes n'avaient pas quitté le couloir. Certains demandaient et recevaient un complément. Simona entra dans la salle des médecins et s'assit devant son ordinateur. Elle mit son optimisme et sa bonne humeur sur le compte du gâteau qui lui avait apporté un surplus de glucose dans le sang. Tout en attendant l'affichage des taux d'hémoglobine et des lymphocytes, elle pensait au regard dénudé de Michael. Il était arrivé trop tôt, à l'instant où il n'y a plus de recours et où l'on n'a plus rien à cacher. Le malheureux n'avait même plus le plafond des sourcils et le filtre des cils. L'apparence était réalité. Un rayon de soleil oblique et nuageux sur les rebords de fenêtres côté ouest lui rappela que la tempétuosité et la quantité de ce jour de travail avaient dépassé toute limite. Le résultat se soldait par trois phénomènes décisifs. Une réanimation manquée, un malade dont les membres enflés n'étaient plus sous son contrôle et des échanges de vues avec un cardiologue. Ajoutez à cela tout le quotidien et le temps était passé. Elle ôta sa blouse, en vida les poches, enferma à clé son matériel personnel et donna les dernières instructions concernant les transfusions d'un tel et l'activité sanguine d'une telle, et elle sortit. Elle préféra l'escalier à l'ascenseur et se dit qu'elle passerait un moment le voir. Il avait peut-être besoin d'une canette de coca, d'un journal, de mouchoirs en papier. Elle traversa d'un pas rapide les couloirs des magasins de la douleur, sourde à la présence des lourdes cargaisons de malheur des autres étages du bâtiment. Au rez-de-chaussée, on faisait la prière de l'après-midi à la synagogue. La voix du chantre se faisait entendre. « Tu ranimes les morts dans ta grande miséricorde, soutiens ceux qui tombent et guéris les malades, et libère les prisonniers. » Simona manqua le manque de profondeur de l'auteur de cette prière, qui fourrait les morts dans le même sac que les autres victimes de l'existence. Pour lui, les morts recevaient leur part de miséricorde, comme tout le reste, et c'était tout. Sans doute, Dieu lui-même n'approuvait pas ce fatras où l'on mélange toutes les plaies dont il afflige ses créatures et où la cause du mort est égale à celle des meurtris et celle du malade et celle du prisonnier. Comment pouvait-on mettre sur le même plan les victimes frappées à juste titre et celles frappées par hasard comme avertissement avec ou sans aucune raison? En entrant au département hématologique, elle pensa que le volume de miséricorde nécessaire à cette seule division n'en laissait plus tellement pour le faible et l'opprimé. Sans regarder autour d'elle, elle se dirigea à la chambre où l'on avait transporté Michael au bout du couloir. Une petite fenêtre éclairait cette chambre donnant sur la forêt de pins qui couvrait le vallon méridional. Ce local était destiné à isoler le malade, soit en raison de l'état de la maladie, soit à cause du caractère public ou officiel de sa personne. Michael n'était pas une personnalité et sa maladie ne sortait pas de l'ordinaire. Mais la fraternité professionnelle lui donnait droit à une chambre privée. Il l'occupait déjà quand il travaillait encore dans cet hôpital avant de déménager. Bien qu'il fût au bout du couloir et sans camarade de chambrée, il s'isolait plus encore et refermait soigneusement le paravent pour séparer sa destinée de celle de ses prochains. Elle longea les murs, prenant soin de ne pas regarder, parvint à la dernière chambre, fit glisser le rideau et entra. La salive se figea dans sa bouche. La jeune doctoresse, au regard ardent et au cou de cygne, était assise sur le lit et Michael dans son fauteuil. La jeune femme avait la main posée sur le genou du malade. Simona ne savait pas si cette main était là pour masser la chair meurtrie et s'était arrêtée à son entrée, ou si elle était là tout simplement. La doctoresse ne portait déjà plus sa blouse. Elle était mince comme une collégienne. Elle portait un jean serré et un tricot gris, mais n'avait ni bijoux ni aucun autre objet de mode. Sa simplicité correcte revalorisait encore sa pâleur. Michael tourna le visage vers elle. « Salut, Simone. Je venais voir si tu avais besoin de quelque chose, mais je vois que tu ne manques de rien. » Elle remonta son sac sur son épaule, comme font toutes les personnes embarrassées, et savait que ce mouvement n'avait pas échappé au malade. « Non, vraiment de rien, » dit-il en riant, et en se redressant sur le dossier du fauteuil. À la lumière faiblissante, son visage devenait plus gris. La dureté des stéroïdes rendait sa silhouette plus angulaire encore, son menton plus glabre, son port moins résolu, et elle contrastait avec la maigreur de ses bras. Les flancs du coteau étaient déjà bleuâtres. Le soleil couchant abandonnait les cimes. La lumière baissait, et les visages brillaient de la faible lueur qui entrait par la fenêtre. Pendant tout le temps de cet incident, la main paisible et naturelle de la jeune doctoresse n'avait pas quitté le genou de Michael. Simone les contemplait hagarde. La courroie du sac glissa de l'épaule, mais elle ne la remit pas en place. Elle murmura « Porte-toi bien !» sortit de la pièce et entendit l'écho de ses propres pas rapides sur le parquet du couloir. Le crépuscule était tombé quand le coiffeur, debout derrière Simone, achevait la coupe des cheveux qui tombait à ses pieds. Elle suivit ses gestes dans le miroir qui lui reflétait sa nouvelle apparence et elle résolut de ne pas fouiller plus avant dans ce que sa légèreté lui avait montré à l'ouverture du paravent. Le présent, comme l'avenir de cette alcôve, était en dehors de son pouvoir. Chaque seconde apportait quelques drames cinglants, et Simone ne savait ni à qui ni pourquoi. Elle était ici maintenant, et la chaise du salon de coiffure constituait l'axe sur lequel tournait l'univers et le centre de gravité. C'étaient les mains du coiffeur et leur avidité de couper. Vous voulez pas faire un dégradé? Ça mettrait les yeux en valeur, non? Pas aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Mais elle savait qu'elle ne le ferait jamais. Jamais? Ridicule. Elle se souvient du noir aux cheveux de sa mère, Hanayona. tout était encore possible. Comme ce rendez-vous pris au département de la fécondité féminine, encore quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait de la vie un an plus tôt. À cette pensée, elle ajouta en elle-même. J'ai bien fait de le prendre et je ferai peut-être bien de l'annuler. Elle mentit au coiffeur. J'aimerais bien un dégradé, mais pas aujourd'hui. À votre disposition, je suis là. Alors que le coiffeur s'appliquait à mesurer la distance qui le séparait encore d'un dégradé sur le crâne de Simone, Hana Yona donnait la preuve de l'existence d'axes complémentaires dans l'univers. Johanna regimbait. Peut-être ça suffit comme ça de Tel Aviv. Faut rentrer à la maison, Madame Hana. Mais cette dernière observait l'intermittence de la lumière et de l'ombre au faîte des acacias. À la vue des merveilles de la journée qui abandonnait lentement les arbres du jardin, elle sentit un pincement au cœur. Ah, si elle avait pu attraper ce jour par la queue et le retenir un moment encore. Oui, il faut que rentrer, fit-elle en écho. Mais elle avait du mal à quitter le fauteuil d'osier où elle avait passé la journée au fond du jardin enchanté. Il s'agissait seulement d'une cour étroite le long de la façade grise d'un vieux bâtiment de 2 étages. De tout petits appartements s'ouvraient sur une longue galerie commune. Cette dernière était garnie d'une balustrade où reposaient des jardinières et où s'appuyaient les coudes de ces rescapés de l'existence, de l'Holocauste ou de quelque autre tragédie. Là, ils trouvaient 4 murs, un morceau de miséricorde et une maigre pitance. Dans la cour bien entretenue, serpentait une allée bordée d'une plate-bande de violettes sur toute sa longueur. Des arbres de haute futaie au feuillage touffu étaient plantés. Sous les arbres, on trouvait des bancs, des fauteuils d'osier et des tables basses. Entre les plaques d'ombre, on pouvait voir un peu de gazon clairsemé. En entrant par le portail de cet humble jardin exigu, Hana Yona avait trouvé un agrément qui allait croissant jusqu'à devenir du bonheur au fil des heures. Accompagnée de Johanna et vêtue de son jaune d'œuf tout neuf, elle avait franchi l'allée et demandé où elle trouverait le bureau. Les individus, les couples et les petits groupes de vieux blottis sous les arbres avaient levé sur elle des yeux curieux. Tous se demandaient si la luisante visiteuse était une nouvelle pensionnaire ou si elle venait juste s'intéresser. Elle souriait, agitait la main et saluait bruyamment tout un chacun. Elle tenait les pans de sa jupe d'une main et faisait de l'autre des effets d'actrice de cinéma sur le tapis rouge. Elle en avait presque oublié la raison de sa venue. Johanna fermait la marche, prévenait les chutes possibles et essayait de la cacher le plus possible. Qui sait jusqu'où portait le regard de la sécurité sociale? Elle la suivait comme son ombre, tout en chassant de la main les abeilles qui bourdonnaient autour de Madame Hanna, sans doute enivrées par les orchidées de la robe jaune. La responsable du foyer, une femme rondelette et affable, les reçut à l'étage des bureaux. Elle leur offrit de l'eau fraîche et demanda si elles étaient venues en visite ou dans leur propre intérêt. Hana Yona répondit « Nous sommes venus voir quelqu'un, un légume qui s'appelle Yossi Yona. »« Yossi Yona ?» répéta la maîtresse de maison en joignant les sourcils. « Je n'ai jamais entendu ce nom-là, mais ça ne veut rien dire. » Dans un autre bâtiment, on trouverait les personnes dans le coma et les infirmes à 100%. C'était à 1 rue et demie de là. La sueur coulait à grosses gouttes du front de Hana Yona. La responsable lui servit à nouveau à boire et Johanna intervint. « Vous devoir vous asseoir un peu, Madame Hana. » Il s'est noyé à l'âge de 3 ans et il est devenu légume, reprit Hana Yona en s'installant dans la chaise que Johanna lui avait avancée. « Alors, il doit être au département des enfants. Vous êtes sa grand-mère ?»« Non, sa belle-sœur. » Hana Yona détacha le corsage qui collait à son corps et creusa un écart imposant entre elle et le vêtement mouillé. Comment cela, la belle-sœur d'un gamin de 3 ans ? Demanda l'hôtesse en lorgnant Hanayona et tout en louchant en direction de Johann pour indiquer ce qu'elle pensait de la santé mentale de la vieille dame. C'est propre ici, au moins, remarqua Hanayona après avoir scruté les environs. Elle passa un doigt expert sur la vitre de la fenêtre. C'est propre à la perfection. Elle examina le produit de ses investigations à la lumière et poursuivit. Il avait 3 ans quand il s'est noyé, mais aujourd'hui, il doit en avoir 77. 77 ? La responsable éclata de rire, mais se reprit par respect pour la visiteuse. Cela faisait une différence si elle était déséquilibrée ou seulement accablée par la chaleur. Elle connaissait les vieux, elle en vivait même. En général, elle savait tout de suite à qui elle avait affaire. Elle voyait immédiatement s'ils étaient avec nous ou n'étaient pas avec nous, c'est-à-dire conscients ou déments. Elle discernait la dépression chronique de la tristesse normale et elle sentait si l'hilarité provenait de la mania dépression. Mais alors là, aucun oiseau de ce genre n'avait jamais atterri dans cette institution. La crête noire d'un corbeau, des plumes jaunes et des yeux trop bleus. Elle observa cette femme qui pinçait les lèvres, soufflait dans son corsage et remuait la main de gauche à droite pour s'éventer. Elle remarqua sa maigreur et les veines saillantes des jambes. Après une hésitation, elle se décida à épargner à la visiteuse une course à l'autre bâtiment. « Quel nom vous dites ? Yoshiyona ? Attendez une seconde, je vais me renseigner. » C'est le frère de mon regretté mari. La responsable s'arrêta un moment sur le seuil par respect pour le défunt et partit pour le bureau. Hanayona s'allongea sur son siège à l'entrée du foyer. Elle scruta les murs et déclara « C'est bien ici pour les légumes. Dieu merci, ce n'est pas mon cas, mais je me sens ici comme chez moi. » Elle se satisfaisait d'avoir tiré le souvenir de son beau-frère de l'oubli et, grâce à cette action louable, d'être venue en un lieu où on respectait les personnes âgées et où on ne leur collait pas d'étiquette de produits périmés. Johann, assise au bord de sa chaise, se tournait les pouces avec anxiété. Le charme que son employeuse trouvait à l'endroit l'inquiétait. Il ne manquait plus que Madame Hahn se décide d'émigrer ici, que son permis à elle vienne à expiration et qu'elle doive retourner en Roumanie sans avoir encore accumulé la moitié de ce dont Angela avait besoin. « Mieux à la maison, Madame Hahn, fit-elle enfin. Ce que vous voyez dehors, c'est pas pareil en vrai. Quelqu'un en a comme vous à la maison, pas besoin de venir ici. » Hanayona posa les pieds sur le petit banc que Johann avait poussé vers elle. « Tu sais, Johann, à la maison aussi, il nous faudrait un jardin comme celui-ci. » Elle regarda au dehors et compara la vue à sa cour abandonnée au souvenir de Yehuda. Les pierres se moquaient bien de la proportion de son âme qu'elle avait investie pour les acheter. D'ailleurs, après 15 ans, se souvenait-on encore de quelqu'un d'autre ? Et même à supposer que ce fût le cas, qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire à Yehuda ? Les filles se souvenaient de lui une fois tous les 50 ans et continuaient, mais elle, il n'y avait pas un jour qu'il n'occupât ses souvenirs. Sa présence était souvent fugitive, mais il restait parfois un long moment. « Et alors, il en sera moins mort pour ça ?»« Sûr, sûr, demain, je achetais des fleurs et fais un jardin. Vous, assise sous les pruniers, vous voir quel parc Johann a fait avec la cour. » Johann donna un moment de repos à ses pouces, s'étala dans son fauteuil, remonta ses manches du dimanche, contempla les arbres et pensa. Rien à dire, endroit sympathique et propre. Il y a des fleurs, des gens, tout ce qu'il faut. Et alors, comme à la station centrale des autobus aussi, il y a des gens. On peut se sentir seul comme un chien, ici comme là. Et Dieu nous préserve de directeurs de station centrale qui ne s'intéressent que l'argent qui entre dans les caisses. Madame Hahn, elle est comme une gamine. Elle voit des arbres et des fleurs et elle saute de joie au ciel pour un rien. Il faut l'enlever d'ici. La femme qui est allée chercher des nouvelles de Yoss y va revenir, et quoi qu'elle rapporte avec elle, dès qu'elle aura terminé, on prendra l'autobus et on va voir Tel Aviv. » Mais la directrice du foyer ne revenait pas. Hannah Yona n'était plus en sueur. Elle se desséchait même, perdait patience, frappait du pied en cadence sur celui de sa chaise et tendait le cou vers la fenêtre. Elle observait les résidents assis sous les arbres qui parlaient, lisaient le journal, jouaient aux cartes ou rêvaient. Hannah déclara « C'est ça, c'est exactement ce qui me manque dans la vie, la société des humains. » Et elle pensait « Toute ma vie, j'ai fait partie d'un couple, autrefois avec Yehuda, aujourd'hui avec Johanna. J'ai oublié comment on parle avec plusieurs personnes à la fois. Bien sûr, j'ai Herz et Klein, mais eux, ils comptent pour du beurre. La conversation avec eux, c'est de l'alcool à bon marché. On dit des bêtises, on rit, et puis on ne se souvient plus de rien. » Elle se sentait comme un enfant en quarantaine qui regarde ses camarades par la fenêtre et voudrait venir à eux. Elle repoussa le petit banc, quitta sa chaise, se dirigea vers la porte, se planta sur le seuil, reçut la lumière du soleil et diffusa ses reflets jaunes au dehors. L'éclair lumineux frappa la langue des personnes présentes qui tournèrent le visage vers elle comme un tournesol au soleil. Les yeux de Hannah, frappés un moment par le jour, se fermèrent puis se rouvrirent. Elle posa la main sur son front en guise de visière. Elle regarda autour d'elle et saisit l'étincelle bleue du regard d'un homme âgé assis tout seul. Johanna, Johanna, regarde quel bleu marine Dieu a mis dans ses yeux. » Elle descendit dans la cour. Elle se dirigea vers l'homme, Johanna sur ses talons, surveillant chaque pas. À la table, il y avait encore trois chaises vides. L'homme lisait un journal en hongrois et s'éventait le cou. Enchanté, je m'appelle Hannah Yona. » Elle lui tendit la main. Il se leva, esquissa une courbette et répondit « Enchanté, je suis Bruno Kohn. » Il lui serra la main, puis se courba devant Johanna avec le même serrement de main. Il leur montra les chaises et les engagea à s'asseoir. Hannah Yona remarqua sa maigreur, sa petite taille et sa mine flétrie et chétive. Mais quels yeux! Si elle les avait bleus, cela, c'était de la turquoise avec une pointe de cobalt. Les yeux purs d'un enfant que la vie n'a pas encore frappé et qui ne lui a pas encore montré ses côtés sales. Elle voulait tout savoir et tout de suite. Qui était-il? D'où venait-il? Où irait-il? D'ici, je n'irai nulle part, répliqua-t-il avec un fort accent hongrois. Vous voyez la porte verte là-haut? C'est là que j'habite et c'est de là que Dieu m'emportera. » En quelques minutes, elle apprit que Dieu avait eu pas mal d'occasions de l'emporter entre 1939 et 1945. Il avait pris ses parents et ses frères et sœurs, mais lui seul, on l'avait oublié. Peut-être sa petite taille et sa maigreur l'avaient caché à l'ange de la mort. Il avait 15 ans quand vinrent à leur fin les gens, les endroits et l'infernal tourbillon. Il avait 15 ans quand le grand silence s'instaura. Il n'avait où aller. Pendant 60 ans, il avait tourné dans toute l'Europe et était arrivé en Israël. Il n'avait jamais employé l'expression « à la maison » avant que ses anges de l'amitié ne le ramassent dans la rue et ne lui donnassent ce palais. Dans ces merveilleux 18 mètres carrés, il y a tout ce dont on peut avoir besoin. Un frigo, un canapé, une armoire, un lavabo, une douche, des toilettes, une chaise et une table. « J'ai même un fer à repasser, » ajouta-t-il, en montrant à Hannah Yona les plis nets de ses manches. « Vous savez, Madame Hannah, le bonhomme va tous les jours rue Aliembi en autobus, achète le journal, revient, descend toujours à la même station, entre toujours par le même portail et sort de sa poche la clé qui ouvre toujours la même porte. » Cet homme a beaucoup de chance, vraiment. Il a beaucoup de chance. » Mais Hannah Yona ne savait pas, elle. Elle avait manqué de pas mal de choses dans la vie, mais elle avait toujours eu un logis. Elle n'aurait pas pensé que sortir et revenir au même endroit, cela s'appelle de la chance. Il y avait même eu des jours où elle serait sortie sans retour lorsqu'elle en avait marre du caractère fixe, solide et immuable de la maison qu'avait bâtie Yehoud et qui lui devenait étrangère. Il y avait des jours où elle pensait que se lever tous les matins sous le même ciel, c'était pire que mourir. Sa sœur, Tamar, avait beaucoup d'adresses, une officielle, à son nom, les autres dans tous les coins du monde. Cette différence lui pesait. Puis, la roue avait tourné. Maintenant, les agents fonciers et les entrepreneurs se pressaient à sa porte et la suppliaient de vendre la maison de Yehoud, et elle répondait « Jamais de la vie ». Elle observa Bruno, dont la tête avait reposé à tant d'endroits différents, certes pas une grosse tête, même petite, pourrait-on dire, des traits tirés, un crâne qui s'était plié aux pressions d'un monde où on n'a pas le droit de prendre trop de place. Elle répondit « Moi, je suis née en Israël ». Elle voulait lui faire comprendre qu'elle n'avait pas été là-bas et que ses malheurs à elle, c'était des tracas de tous les jours. « En Israël, bravo! Quand on est né en Israël, on a une famille, une maison, tout !» Il sourit, heureux pour elle, à la pensée qu'elle était née en Israël. Elle remarqua qu'il avait des dents toutes neuves. Sans doute un cadeau des anges du lieu. Johanna se remit à se tourner les pouces avec nervosité. « Madame Hanna cherche des problèmes, pourvu qu'elle ne raconte pas ce qu'il ne faut pas raconter et qu'il reste du temps pour voir Tel Aviv. » Elle scruta les alentours du regard et ses pouces arrêtèrent leur mouvement à la vue de la directrice qui revenait. Elle tapa doucement sur l'épaule de sa patronne. « Madame Hanna, voilà la femme vous demandez à propos de Yossi. » La nouvelle venue dit en riant « Bruno, quelles belles amies vous avez aujourd'hui !» Elle se tourna vers les deux femmes et ajouta « Bruno, vous savez, c'est le gentleman de la maison. Peu d'hommes savent rendre le respect aux femmes comme notre Bruno. » Elle posa une main solide sur l'épaule fragile de l'intéressé et serra affectueusement. « Il n'y a pas comme Bruno !» Elle exultait. Lui, il souriait, comme jouant son rôle d'objet quotidien des compliments et de l'orgueil de l'institution. Hanna Yona l'observait et pensait. « Je ne suis pas nouvelle sur cette terre. J'ai vu des yeux de toutes les tailles, couleurs, catégories, formes. Je croyais avoir tout vu. Mais en entrant dans cette résidence, je suis tombée sur des yeux uniques au monde. » Ce n'est pas tellement le bleu. Les miens aussi sont bleus. Non, c'est le mélange de la mer et du doux, du triste et du joyeux, de l'enfant et du vieux. Il a 83 ans et quel drame on voit encore dans ses yeux. » Elle se penchait et allait lui toucher le bras, mais la responsable s'inclina à son tour et demanda. « Madame Yona, à propos de votre beau-frère Yosef, qui c'est votre beau-frère Yosef ?» Le visage de Hanna Yona se rembrunit. Elle se prit d'une fureur sourde contre ce beau-frère qui gâchait ainsi ce moment de plaisir. Mais aussitôt, elle se frappa le front et demanda « Vous voulez dire Yossi, le frère de Yehuda ?» La directrice du foyer sourit avec une complaisance dénotant son habitude de ces situations. La mémoire défaillante des personnes âgées était un axiome fort respecté dans cette institution. Elle attendit un moment, puis prononça. « Je suis désolée, Madame Yona. Votre beau-frère est décédé d'une pneumonie il y a 60 ans. Il en avait 17. » Hanna se mit à compter les années à haute voix. Ainsi, Yehuda avait alors 22 ans et demi et nous n'étions pas encore mariés. « Quoi, pas mariés ? Nous ne nous connaissions même pas. Yehuda, le pauvre !» Elle chercha quelque chose sur le visage de la directrice, la prit par la manche et demanda. « Pardon, madame, à quoi ressemble un légume humain de 17 ans? Et puis, est-ce qu'on meurt de pneumonie à cet âge-là? Quoi, vous n'avez pas d'antibiotiques ? Et puis, j'ai encore une question, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est venu le voir? Et puis, pour finir, où l'a-t-on enterré? La responsable n'avait pas d'autres détails. « Madame Yona, je vous ai rapporté mot pour mot ce qu'il y a dans les registres. À mon grand regret, les personnes qui ont connu Yossi sont à la retraite depuis longtemps. Quelques-unes sont sans doute décédées elles-mêmes. » Anna Yona voulait faire quelques remarques sur les légumes, comme Yossi qui s'en vont comme ça, sans famille, sans dignité. Mais elle se contint. Yehuda, à quoi la dignité lui avait-elle servi en sortant de ce monde? À rien. Cela ne l'avait pas rendu moins mort que Yossi. Elle ne voulait pas retarder encore les moments d'agrément que lui causait cet aimable garçon, Bruno. Et puis, d'ailleurs, on avait déjà assez parlé des morts. Les morts, qu'ils parlent pour eux-mêmes. Ils ont toute l'éternité pour ça. Ils pouvaient se le permettre, eux. Mais elle et Bruno, le compteur tournait. Il ne tournait pas, il tourbillonnait, comme le montant de la note que débite une pompe à essence. Elle se redressa sur sa chaise, prit un air sérieux et, d'un ton de maître, déclara. « Johanna, tu vas voir Tel Aviv toute seule. Je t'attends ici jusqu'à toi finir voir. Va avec cette dame, va te montrer où autobus centre Tel Aviv. » « Madame Hanna, je ne peux pas quitter vous. J'ai responsabilité. » Johanna se signa, rougit, et la sueur coula sous la robe des fêtes qu'elle portait pour voir Tel Aviv. Elle posa le regard sur la directrice dans l'espoir d'obtenir son adhésion. Mais celle-ci, sûre de son expérience et de son jugement, déclara que Madame Hanna pouvait bien rester ici toute seule, qu'elle se débrouillerait à merveille et que Monsieur Bruno, qui était un gentleman, la munirait de toute la nourriture et des soins voulus. Johanna, piteuse et déconfite, regarda le vieux monsieur chétif préposé à la garde de Anna Yona. Elle balbutia.
« Goutte, goutte !
Mais pourvu que pas !» Puis elle saisit son porte-monnaie et, toute rouge et courroucée, suivit la responsable jusqu'à la rue et accompagna du regard la main qui lui indiquait la station d'autobus. Anna Yona fêta sa liberté reconquise en ôtant ses chaussures et en les jetant sous la table. Puis elle retira les épingles qui retenaient sa chevelure. Et ainsi, pieds nus et échevelés, elle leva le nez vers la cime des ficus et proféra. « Bonté divine, enfin, plus de patron sur la tête !» Bruno sourit, montrant ses nouvelles dents blanches. « Il n'y a qu'un seul patron, là-haut. »« Dites donc, vous êtes religieux ?» Elle prit la manche bien repassée de sa chemise. Vraiment, elle voulait fêter sa liberté sans Dieu et sans patron. « Je suis, comment dirais-je, d'assez près la religion. » Elle reprit l'expression « d'assez près » et rit franchement. Elle ne voyait pas bien la différence entre suivre une religion et la suivre de près, et elle décida de remettre le dilemme à plus tard. Et si elle oubliait, eh bien tant pis. Elle n'avait vraiment pas besoin d'une leçon de théologie à présent. Bruno s'enthousiasma de cette chevelure d'anthracite qui se libérait à l'appel de l'électricité statique, se dressait et couronnait ce crâne comme la queue d'un paon. Il pensait que, des choses comme ça, cela ne se voit qu'au cinéma. Il ajouta « Mes relations avec Dieu, le moment n'est pas encore venu d'en parler, Madame Hanna. Une autre fois. » Il lui tendit le journal hongrois pour qu'elle s'évente. « J'ai du raisin au frigo et aussi du jus d'orange régime. Mais d'abord, remettre vos chaussures. Il vaut mieux ne pas marcher pieds nus sur ce gazon. » Anna Yona se rechaussa. L'allée était étroite et Bruno lui fit signe de passer devant lui. « À droite, s'il vous plaît, par l'escalier. » Tous deux se cramponnèrent à la rampe et montèrent à pas mesurés vers sa chambre. À la tombée de la nuit, le dernier rayon de soleil filtrait encore par la vitre arrière de l'autobus et caressait les cheveux blonds de Johann au-dessus du dossier de son siège. Elle se tenait très raide, la nuque droite étendue, les jambes serrées et collées au sachet de plastique qui contenait tout ce qu'elle avait acheté pour Angela au marché du Carmel. À ses côtés, sous la ligne du rayon de soleil, Hanna Yona était assise près de la fenêtre, fourbue, brisée, échevelée et heureuse. Plongée dans son siège, elle ne disait mot. Elle faisait d'elle-même une toute petite boule et voulait y enfermer son bonheur pour elle toute seule, de peur qu'il ne disparaisse au loin. Johann contempla la silhouette de sa patronne, constata qu'elle avait un air trop réjoui et se mit sur ses gardes. Elle craignait les signes de bonheur exagérés. Elle n'aimait pas les choses qui commençaient à un endroit précis et se terminaient on ne savait où. Elle préférait de beaucoup les jours sans événements et sans changements. En partant le matin, elle pensait que le sommet de la journée consisterait en la découverte des traces de Yossi à Tel Aviv. Et au lieu de ça, Yossi était mort, elle-même s'était promenée toute seule à Tel Aviv, et Madame Hanna montrait des émotions d'un genre tout nouveau. Le silence de la vieille dame ne provenait assurément pas du théâtre et du boniment, mais bien de ce sentiment inconnu. Les yeux de Hanna Yona étaient clos. Elle écoutait le battement de son bonheur et se tâtait les côtes pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle, qu'elle était bien éveillée et que tout ce qui était arrivé avait bien eu lieu. Le matin, quand elle avait jeté sa robe grise à la poubelle et mis ses orchidées friponnes sur elle, Hanna avait pensé que sa vie ne tendrait maintenant qu'à une extinction de plus en plus rapide, au retrécissement, au barrage, à la réduction et à la flétrissure, jusqu'au rien définitif. Comment aurait-elle pu prévoir qu'en quelques heures, le monde se serait ainsi retourné et que son cœur aurait atteint la taille d'un stade olympique ? Elle revit la scène. Comme c'était bizarre ! Ce Bruno était plus petit qu'elle, tout menu. Quand elle entra dans le petit cabinet de toilette pour se recoiffer, elle pensa qu'il n'y avait pas de place là-dedans pour une épingle. Il passa derrière elle sans broncher et, avant qu'elle ne sentît sa présence, il prononça « C'est beau de voir une femme qui se coiffe !» Dans le miroir, elle remarqua que la chemise était à moitié vide et que le pantalon flottait sous la ceinture. Elle avait pensé « Il pèse encore moins que moi ». Elle se retourna, regarda ses yeux et pensa « 70% de ce bonhomme, ce sont ses yeux. Donnez-la-moi ». Il lui prit la brosse des mains, se mit sur la pointe des pieds, ramassa les touffes de cheveux d'une main maladroite et roula le tout comme un escargot sur sa nuque. Elle lui tendit 6 épingles à cheveux qu'elle sortait de sa bouche les unes après les autres. Tout en les fixant dans le chignon, il disait « Ces fleurs vous vont très bien, Hanna ». Elle se recroquevilla sur son siège dans l'autobus. L'odeur de savon et de moisi de cette petite salle de douche lui manquait. Elle posa une main sur la cuisse de Johann. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Johann détendit le cou et le dos, et se tourna vers elle. Hanna Yona demanda encore « Tu as une idée de ce qu'il veut dire par « suivre la religion » ?» Johann plissa le front, contempla le paysage obscur qui passait à côté de la fenêtre de l'autobus et affirma « Je ne sais pas, je ne connais pas ces mots-là. » Hanna Yona se passa la main dans les cheveux, constata que le chignon était bien en place et déclara « Je crois que je commence à suivre la religion. »« Ça veut dire quoi, ça ?» demanda Johann sans quitter le paysage des yeux. « À vrai dire, je ne sais pas tellement, mais ça a rapport à Dieu. » Tout en parlant de Dieu, Hanna Yona se souvint des chemises rouges qui, ce matin-là, pendaient de la fenêtre de sa fille. « Pourvu que Simone n'ait pas enlevé les maillots rouges de la corde !» « Simone, c'est quelqu'un avec responsabilité. Elle sait ce qu'elle fait. » Johann serra Hanna Yona par l'épaule. Elle desserra les cuisses qu'elle tenait toujours jointes. Elle se détendit et étala les jambes. Les paquets de vêtements d'Angela émirent des crissements divers.